Bonjour Laura.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La France aurait pu arrêter les massacres au Rwanda, mais n'en a pas eu la volonté. Déclaration d'Emmanuel Macron à quelques jours de la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis. Un pas de plus dans les relations entre Paris et Kigali.
La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son accueil indigne des harkis après la guerre d'Algérie.
Dans ce journal également, les polluants éternels bientôt interdits, mais seulement pour certains produits. Et l'examen à l'ONU d'un appel à un embargo sur les armes vers Israël. Et puis notre journée spéciale européenne consacrée aujourd'hui aux pays baltes et le débat sur la professionnalisation du hip-hop qui n'en finit pas. Et puis la question du jour, Marguerite Caton.
À quoi sert le Parlement européen ?
Juste après ce journal. Emmanuel Macron avait déjà reconnu en 2021 les responsabilités de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda. Le chef de l'État fait un pas supplémentaire alors que le pays s'apprête à commémorer le 30e anniversaire du massacre des Tutsis. Emmanuel Macron estime que Paris aurait pu arrêter les massacres mais n'en a pas eu la volonté. Selon lui, près d'un million de victimes auraient pu être évitées. Une déclaration qui tombe alors que les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo voisines sont au plus haut. La RDC où progresse toujours dans le Nord Kivu les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Et les explications depuis Kigali de Paul Lorgerie.
Les autorités rwandaises ne se sont pas encore exprimées sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que les propos du président français, reconnaissant une fois de plus la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis en 1994, pourraient marquer un nouveau pas dans les relations entre Paris et Kigali, la capitale rwandaise. Car pour Naftali Shakié, secrétaire exécutif de l'association Ibuka, qui s'efforce de faire perdurer la mémoire des victimes, la communauté internationale a sa part de responsabilité dans ce drame.
Ce qu'a dit Emmanuel Macron est la vérité. Nous savons que la communauté internationale savait ce qu'il se passait, mais ils ont décidé de rester silencieux.
Selon des sources diplomatiques, Emmanuel Macron devait se rendre à Kigali à l'invitation du président rwandais, Paul Kagame. Il sera pourtant représenté par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, ainsi que par le secrétaire d'État en charge de la mer, Hervé Berville, né au Rwanda. Hors micro, des sources admettent que l'une des raisons avancées pour cette absence du président français concerne le conflit qui sévit depuis 2021 entre la République démocratique du Congo voisine et les rebelles du M23, accusés d'être soutenus par le Rwanda. Des combats qui ont jeté des centaines de milliers de personnes sur les routes et qui ont provoqué une crise humanitaire sans précédent.
Emmanuel Macron devrait à nouveau s'exprimer sur le sujet dimanche à l'occasion de la cérémonie commémorative. La France responsable aussi du traitement infligé aux harkis dans les années 60 et 70. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour les conditions de vie dans les camps où ont été reçus après la guerre d'Algérie les harkis, les Algériens ayant combattu avec l'armée française. Des conditions, selon la CEDH, pas compatibles avec le respect de la dignité humaine. Les 5 requérants sont des ressortissants français, enfants de harkis. 4 d'entre eux sont de la famille Tamazunt et sont arrivés en France au moment de l'indépendance de l'Algérie. Ils ont vécu principalement au camp de Bias dans le Lot-et-Garonne jusqu'en 1975. C'est l'épilogue d'un long combat judiciaire pour la famille Tamazunt qui espère faire remonter la question de l'indemnisation des harkis au titre des réparations. Les précisions d'Anne Fauquemberg.
Abdelkader Tamazunt et son frère Charles sont les fers de lance de ce combat. Le premier a vécu près de 10 ans dans le camp de Bias, le second, le dernier de la famille, un peu moins longtemps. Devenu juriste, il a créé l'association Harkis et Vérité. À partir de 2011, Charles aide son frère Abdelkader à se pourvoir en justice. L'affaire remonte jusqu'au Conseil d'État qui prend une décision historique en 2018. L'État est condamné à verser 15 000 euros à Abdelkader au titre des préjudices matériels et moraux subis au camp de Bias. Mais cette décision ne va pas assez loin pour le benjamin de la famille, notamment en termes d'indemnisation, comme il l'explique à France Culture.
Quand le Conseil d'État a reconnu de manière courageuse la responsabilité de l'État français avec des fautes aussi graves, on ne peut pas avoir en réalité juridique un droit à réparation qui se résume en fait à quelques miettes de réparation, ce que plusieurs professeurs de droit ou de praticiens du droit ont appelé une aumône en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la CEDH nous répond sur ce point-là en nous disant que la France doit complètement revoir sa politique et surtout son action en matière de réparation parce que cette réparation qui est soi-disant annoncée, présentée à l'opinion publique française depuis une quinzaine d'années, est totalement insuffisante, sans rapport avec la gravité des violations aux droits de l'homme et que la France aujourd'hui doit réparer.
Charles Tamazunt attend maintenant que la France se positionne après cet arrêt de la CEDH, sachant qu'énormément de contentieux concernant les harkis sont pendants devant les juridictions.
Anne Fauquemberg. L'Assemblée nationale interdit certains produits contenant des PFAS, surnommés les polluants éternels. Ces substances per- et polyfluoroalkylées ont un cycle de vie très long. Certaines sont dangereuses pour la santé. À noter que les ustensiles de cuisine qui contiennent bien souvent des PFAS sont exclus de cette interdiction. Alors qu'en dit l'industrie? Car le remplacement des PFAS constitue un défi économique, technologique et industriel gigantesque. Marie Viennot.
Chimie, textile, électronique, électroménager, bâtiments, mais aussi fibres optiques, jouets, mousse incendie, cosmétiques, les PFAS sont partout. Et si les industriels ont pour certains commencé à chercher des alternatives, restent des domaines où il sera impossible de s'en passer, alerte notamment la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, qui représente 6500 entreprises. Pas de transition énergétique sans PFAS, assure son président Benoît Lavigne, car les PFAS sont dans les pompes à chaleur, les batteries et partout où il y a des échanges thermiques importants. Inquiets des poursuites judiciaires, des entreprises de la chimie ont déjà anticipé de cesser la production d'ici peu, après avoir dû payer plus de 12 milliards de dollars pour des poursuites engagées par plusieurs réseaux publics de distribution d'eau potable, notamment en Flandre. L'Américain 3M a prévu d'y cesser la production de PFAS en 2025. Aujourd'hui, la Fédération française qui représente la chimie et ses 3000 entreprises plaide pour que les PFAS puisse être maintenu dans le processus de fabrication dès lors que l'industriel, je cite, prouve qu'ils sont utilisés de manière responsable pour le consommateur, les salariés et l'environnement. Pour le textile, la proposition de loi table sur une interdiction en 2030. Dans la cosmétique, au niveau européen, les industriels se sont eux engagés à les remplacer volontairement d'ici 2026. Et c'est à ce niveau européen d'ailleurs que le gouvernement français préférerait que les interdictions soient décidées. Il est opposé par ailleurs à une interdiction générale des PFAS.
Et toujours dans le cadre de la niche parlementaire écologiste, les députés ont aussi voté hier soir en faveur de prix planchers pour les agriculteurs.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Laura Dulieu. Israël annonce autoriser la livraison temporaire d'aide dans la bande de Gaza via le port d'Ashdod et le passage d'Eretz au nord de l'enclave après la mise en garde inédite des États-Unis.
Joe Biden a évoqué pour la première fois hier la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures tangibles face à la catastrophe humanitaire à Gaza, bombardée et assiégée par Israël. Sans oublier le mécontentement international après la mort des 7 travailleurs de l'ONG World Central Kitchen, tué lundi par l'armée israélienne qui a reconnu une grave erreur. Tandis que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU examine aujourd'hui un appel, un embargo sur les armes pour Israël. Si le texte est adopté, il s'agirait de la première prise de position de l'organe des Nations Unies depuis le début des bombardements de Gaza par l'État hébreu, qui peut compter sur plusieurs pays fournisseurs d'équipements militaires. Les précisions de Marwa Mann.
L'appel a été lancé par le Pakistan au nom des pays de l'OCI, l'Organisation de coopération islamique. Si la résolution est adoptée, elle n'aura qu'une portée symbolique car juridiquement non contraignante. Son objectif, pousser les pays marchands d'armes à suivre l'exemple du Canada qui a décidé il y a quelques semaines de ne plus vendre d'équipements militaires à l'État hébreu. La Grande-Bretagne menace de faire de même. Mais ces deux pays ne jouent pas un grand rôle dans la fourniture d'armes à Israël. Contrairement aux États-Unis, qui avec 68% des exportations ces 5 dernières années, sont les premiers fournisseurs de matériel de guerre de l'État hébreu, selon le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, suivi de l'Allemagne, loin derrière avec 28%, de l'Italie en troisième position. Quant à la France, ses ventes d'armes à Israël sont marginales, moins de 0,5% du total de ses exportations pour l'année 2022.
Et de son côté, l'ONG Médecins Sans Frontières accuse Israël de destruction systématique et délibérée du système de santé du territoire palestinien. Brutalité en toute impunité, selon l'ONG, permise, je cite, par les alliés d'Israël qui fournissent encore plus d'armes.
7h10 sur France Culture, la suite du journal de Laura Dulieu.
Et dans le cadre de notre journée spéciale Être européen sur France Culture, nous nous intéressons aujourd'hui aux pays baltes et à la place qu'ils occupent dans l'Union européenne. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont trois petits pays du nord de l'Union que la guerre en Ukraine a projeté sur le devant de la scène européenne. Angélique Boin est notre correspondante à Bruxelles. Les trois pays ont rejoint le bloc européen en 2004 lors du grand élargissement à l'Est.
À eux trois, ils ne représentent qu'un peu plus de 1% de la population de l'Union, ne pèsent donc pas bien lourd lors des votes à la majorité qualifiée, mais avec la Finlande et la Pologne, ils sont les seuls États membres à partager une frontière avec Moscou. Alors après avoir alerté en vain pendant des années sur le danger russe, la guerre les a propulsés en première ligne. À Bruxelles, leur voix est aujourd'hui très écoutée. La flamboyante et très pro-européenne première ministre estonienne, Kaja Kallas, est par exemple aux avant-postes de la nouvelle stratégie de défense de l'Union. C'est elle qui propose un grand emprunt de 100 milliards d'euros pour la financer.
Et sortie du giron de l'URSS en 1991, les trois pays baltes ont opéré une mue économique et politique très rapide, Angélique.
Oui, ils sont passés du collectivisme à une économie de marché, du parti unique au pluralisme en quelques années, ont très vite adopté l'euro et intégré l'espace Schengen de libre circulation. Soutenus évidemment massivement par des aides européennes, les Baltes ont progressé vite et attirent aujourd'hui nombre d'investisseurs étrangers dans des domaines variés, industrie, services financiers, mais aussi technologie de l'information. En 1991, lors de leur indépendance, ils avaient tout à construire. C'est le début d'Internet qui accompagnera leur développement, leur agilité. Avec le numérique joue un rôle clé pour les protéger des ingérences russes. Le secteur de la cybersécurité y est par exemple très en pointe.
Mais la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont aussi des États militarisés.
Oui, ils ont intégré l'OTAN la même année que l'UE, pays clé face à Moscou. Ils abritent aujourd'hui plusieurs bases militaires, collaborent étroitement avec Américains et Britanniques et reçoivent aussi à tour de rôle des brigades européennes. Viscéralement anti-russes, ils doivent tout de même composer avec de fortes minorités russophones. Et leur point faible, c'est la fuite des cerveaux et les questions d'identité nationale, car c'est à l'Ouest qu'on les appelle les pays baltes, alors que chacun de ces trois États a des spécificités de langue et de culture.
Merci Angélique Boin. Et les pays baltes sont au cœur du reportage de la rédaction dans quelques minutes ainsi que du journal de l'Écho à 7h30 consacré à la construction d'un chemin de fer entre les pays baltes et le reste de l'Union européenne. Professionnaliser et institutionnaliser le hip-hop, voilà qui donne lieu à des passes d'armes en ce moment entre le gouvernement et le monde du hip-hop après une proposition de loi qui vise à professionnaliser l'enseignement de cette danse. Alors l'idée va à l'encontre même de la nature du mouvement qui s'est par nature développé en dehors des institutions, estime des artistes. Dans la foulée, la ministre de la Culture, Rachida Dati, promet une meilleure représentation du hip-hop à la tête des centres chorégraphiques nationaux. Belle idée sur le papier, mais pas forcément bien accueilli, Louis-Valentin Lopez.
C'était le week-end dernier, d'abord sur la radio Skyrock, puis à l'Assemblée nationale, annonce de Rachida Dati sous la forme d'une promesse.
Je doublerai le nombre de chorégraphes hip-hop qui dirigeront un centre national chorégraphique d'ici 2026.
Mais plus de directeurs issus du hip-hop, ce n'est pas une priorité pour la danseuse Camille Valla. Elle est membre de C'est Nous, un collectif qui rassemble des associations d'artistes hip-hop.
Cette valorisation qu'on aimerait, c'est une valorisation de ce qu'on fait tel qu'on est. Et pas forcément de nous mettre à des endroits qui ne sont pas les nôtres. On a un gros manque de structure, on a un gros manque de financement. Les scènes nationales ne peuvent pas vivre sans ce qui se passe sur le terrain plus local.
Le hip-hop et les pouvoirs publics entretiennent une relation tumultueuse, et ce depuis le début du mouvement en France, il y a une quarantaine d'années. Louis Jésus est sociologue, spécialiste du hip-hop.
Le fait de dire qu'on va enfin permettre à davantage de professionnels et de chorégraphes de la danse hip-hop d'accéder à la direction de ces scènes, ça va dans le sens de l'histoire et c'est un rattrapage institutionnel. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'inquiétudes sur toutes les tentatives d'intervention du ministère de la Culture et de l'État, la façon dont les pouvoirs publics vont vouloir façonner la danse hip-hop.
Nous avons joint l'Association des Centres Chorégraphiques Nationaux, étonnée par l'annonce de Rachida Dati, car le renouvellement des directeurs des CCN passe par un processus de candidature inscrit dans la loi. Les CCN sont attachés à la diversité des esthétiques, nous dit-on, sans pour autant tirer un trait d'égalité entre diversité et hip-hop, car cette dernière est large et inclut notamment l'égalité femmes-hommes et une meilleure inclusion des minorités.
Louis-Valentin Lopez. Et un mot du temps, des nuages et de la douceur. Ce matin, il fait de 8 à 15 degrés du nord au sud.
Merci, Laura Dulieu. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. À quoi sert le Parlement